Un député israélien membre du parti d'Itamar Ben-Gvir vandalise un monument érigé en hommage aux terroristes palestiniens en Judée-Samarie. Le Premier ministre Netanyahou condamne les faits. La Syrie et la Turquie remercient les États-Unis d'avoir retiré Damas de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme. L'émissaire du président Trump en Syrie, Tom Barrack, pourrait être démis de ses fonctions. Les détails dans ce journal. À Toronto, au Canada, un professeur d'université acquis à la cause palestinienne profère des insultes antisémites à l'écart des Juifs et d'Israël. En Belgique, de nouveaux tirs de Kalachnikov entendus à Saint-Gilles. Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin rencontre les trois bourgmestres de la zone Midi. Les images font le tour des réseaux sociaux. On y voit le député du parti Force Juive, Zvi Sukot, vandaliser un monument érigé en hommage aux terroristes palestiniens dans le village de Madama. La vidéo diffusée par les médias palestiniens montre un soldat se tenir debout sans réaction à côté du parlementaire israélien et de ses collaborateurs. Il y a plusieurs jours, j'ai exigé que l'armée agisse pour retirer les monuments commémorant les terroristes dans les villages de Madama et Bourine. Mais malheureusement, ils sont restés en place. C'est pourquoi je suis venu moi-même et j'ai pris l'initiative de les faire retirer. A expliqué Zvi Sukot, qui a ajouté que tout lieu incitant à la terreur devait être détruit. Selon le journal Israel Hayom, le monument de Madama rend hommage à un terroriste impliqué dans un attentat perpétré en 2003, au cours duquel 4 Israéliens ont été tués et 20 autres avaient été blessés. Tzahal répond aux députés israéliens. Contrairement à la coordination prévue, les participants à cette visite coordonnée avec les forces de sécurité ont agi de manière trompeuse et manipulatrice en violation flagrante du plan approuvé et ont commencé à démolir l'un des monuments commémoratifs du village de Madama, a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué, ajoutant que peu de temps après les faits, les soldats présents sur les lieux avaient averti leurs supérieurs qui ont alors ordonné aux forces d'interrompre la visite du député et de ses collaborateurs dans le village. Un acte condamné par plusieurs personnalités politiques en Israël et au premier rang duquel le Premier ministre Netanyahou. L'armée israélienne est souveraine en Judée-Samarie et elle est chargée de mettre en œuvre les décisions du pouvoir politique. Se faire justice soi-même, surtout par des personnalités publiques, est une erreur et empêche l'armée israélienne de se concentrer sur des missions de lutte contre le terrorisme et l'incitation à la haine, a indiqué le chef du gouvernement israélien. Le comportement du député Sukot est une honte pour quiconque prétend représenter le public et être un dirigeant. Il a menti et induit en erreur l'armée israélienne et ses commandants, compromis la sécurité et terni l'image de l'État d'Israël tout entier, a tweeté pour sa part Gadi Eisenkot, le président du parti Yashar. Tzahal a entamé par ailleurs ce matin l'évacuation du complexe de l'UNRWA situé à Kfar Aqab dans le nord de Jérusalem. L'opération est menée conjointement par l'armée israélienne, la police et la municipalité de la capitale israélienne. Les autorités avaient organisé plusieurs réunions préparatoires et effectué des visites sur place au préalable. Une intervention saluée par le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir. Les forces de police agissent avec les autorités compétentes pour faire appliquer la loi et retirer l'UNRWA des lieux. Une organisation qui a servi de couverture au Hamas dans la bande de Gaza, une opération soutenue par le Premier ministre Netanyahou. Tzahal poursuit ses opérations dans la bande de Gaza. L'armée de l'air israélienne a frappé hier 5 dépôts d'armes du Hamas situés à l'intérieur de mosquées à proximité de sites humanitaires ainsi qu'un site de lancement de roquettes. L'armée israélienne et le Shin Bet affirment dans un communiqué conjoint que ces frappes constituent un avertissement clair au Hamas, ajoutant qu'Israël n'acceptera aucune forme d'activité terroriste dans la bande de Gaza qui menace les civils israéliens. À noter qu'un responsable du Conseil de la paix a déclaré dans un communiqué que toute activité militante à Gaza, y compris le lancement de cerfs-volants incendiaires, devait cesser immédiatement. Toute activité militante à Gaza doit cesser, y compris le vol de cerfs-volants. Nous avons transmis ce message directement par le biais du mécanisme établi, a déclaré ce responsable qui a appelé dans le même temps Israël à respecter les termes du cessez-le-feu. Le chef d'état-major de Tzahal, Eyal Zamir, en visite à Gaza, a indiqué lui que la traque des terroristes impliqués dans les massacres du 7 octobre se poursuivrait malgré les injonctions du Conseil de la paix. La Syrie et la Turquie remercient les États-Unis pour avoir retiré Damas de la liste des pays soutenant le terrorisme. Aujourd'hui, la Syrie se débarrasse d'une tâche indélébile et tourne la page sur un chapitre douloureux de son passé pour s'engager sur la voie du développement, de la reconstruction et du renouveau, a déclaré le chef d'État syrien. L'émissaire américain en Syrie et ambassadeur des États-Unis en Turquie, Tom Barrack, a été lui rappelé à Washington pour des consultations. Il pourrait être démis de ses fonctions, selon des sources proches du président Donald Trump. Israël Katz se trouvait, lui, ce matin aux côtés des forces de Tsahal, postées dans la zone de sécurité située dans la partie syrienne du mont Hermon. Il a tenu à adresser un message clair aux chefs d'État syriens et turcs. Je vous propose d'écouter une partie de la déclaration du ministre israélien de la Défense.
נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה תוך סיכון אינטרסים ביטחוניים של ישראל. הבהרנו את הדברים בצורה ברורה, נעמוד עליהם גם בעתיד. אנחנו פעלנו על מנת שסוריה לא תהווה איום על מדינת ישראל. השמדנו את כל התשתית האסטרטגית שצבא אסד במהלומה של מספר ימים, מטפלים כאן באיומים.
Tant qu'il y aura des menaces, Tsahal restera ici pour assurer notre sécurité. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous entendons faire à l'avenir. Nous avons agi contre une tentative turque de s'implanter en Syrie au péril des intérêts sécuritaires d'Israël. Nous avons été clairs et nous maintiendrons cette position. Nous avons agi pour que la Syrie ne représente pas une menace pour l'État d'Israël. Nous avons détruit l'ensemble de l'infrastructure stratégique de l'armée d'Assad en quelques jours de frappe. Nous gérons les menaces ici pour assurer la sécurité et c'est ce que nous continuerons à faire, a déclaré le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. Le Pakistan s'active en coulisses pour relancer les négociations entre Washington et Téhéran. Des progrès significatifs auraient été réalisés ces dernières heures après la visite du ministre pakistanais de l'Intérieur à Téhéran et sa rencontre avec les responsables iraniens. Les discussions entre les deux parties ont porté sur les mesures visant à prévenir une nouvelle escalade, la réouverture de Détroit d'Ormuz et une résolution rapide du conflit, selon un communiqué de l'armée pakistanaise au terme de la rencontre entre le chef d'état-major du pays Asim Munir et les dirigeants iraniens. Une source à la Maison Blanche à Washington indique qu'il n'y a pour le moment aucune discussion en cours avec Téhéran. Et dans un message publié sur son réseau social, le président Trump a quant à lui accusé l'Iran de tuer des manifestants, même lorsqu'ils ne manifestent pas à une échelle sans précédent. Il s'agit d'une crise humanitaire majeure qui doit cesser immédiatement. Il faut savoir que la République islamique défaillante ne paie pas une partie de son armée, a écrit le chef d'État américain qui a indiqué dans le même temps que toutes les mines marines avaient été retirées ou neutralisées dans le détroit d'Ormuz. En Chine, les bureaux du ministère des Affaires étrangères affirment que le pays défendra ses intérêts après l'annonce des États-Unis d'asphyxier économiquement l'Iran. La Chine a déjà déclaré à plusieurs reprises qu'elle s'oppose fermement aux sanctions unilatérales illégales. Notre pays prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement ses droits et ses intérêts, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, lors d'un point de presse régulier. Le Luxembourg a annoncé qu'à partir du 1er septembre prochain, elle cessera d'approuver les prospectus nécessaires à la commercialisation des Israel Bonds dans l'Union européenne, destinés principalement aux membres de la diaspora juive et aux organisations favorables à Israël. Les Israel Bonds constituent l'un des moyens de financement de l'État hébreu. Selon le ministère israélien des Finances, leur commercialisation a permis de lever plus de 2,5 milliards de dollars en 2025, soit un montant proche de celui enregistré en 2024. La part provenant de l'Union européenne reste toutefois minoritaire. On apprend par ailleurs dans le Télégraphe que des agents dits jetables auraient été recrutés dernièrement par la Russie et auraient sévi dans toute l'Europe, y compris en Belgique. Le quotidien britannique cite trois exemples, notamment au regard de plusieurs incendies perpétrés contre des fabricants d'armes européens. Il y a tout d'abord eu un incident au sein de l'usine EMCO en Bulgarie, une usine qui fournit des armes à l'Ukraine. Quelques jours plus tard, c'est l'Italie qui semblait victime d'un sabotage du même type contre les locaux de la société d'équipement de défense KNDS Amo, située à une heure de route de la capitale Rome. Enfin, il y a 10 jours, un incendie a été observé chez Milrem Robotics en Estonie. L'entreprise développe des véhicules sans pilote qui sont notamment déployés en Ukraine. Pour Joris van Bledel, chercheur à l'Institut royal des relations internationales d'Egmont, ces différentes cibles sont légitimes pour la Russie. Il y a bel et bien des opérations, elles sont plus fréquentes et ont un impact plus important. Les Russes ciblent des entreprises militaires car cela leur permet également d'exploiter la réticence et la crainte de l'Occident à s'enfoncer davantage dans ce conflit. La Russie cherche ainsi à saper notre position vis-à-vis de l'OTAN. Fin de citation. Et lors de la réunion de la coalition des volontaires organisée hier, le président de la République française, Emmanuel Macron, a annoncé le lancement des premiers exercices militaires conjoints des soutiens à l'Ukraine en automne. Non merci, a répondu la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, qui refuse d'envoyer des troupes en Ukraine. Ces exercices avaient été annoncés lors de la précédente réunion de la coalition des volontaires au mois de juillet dernier. Environ 1500 militaires britanniques et français vont se rendre en Pologne dès le mois de septembre prochain pour participer à des exercices internationaux des pays de la coalition. Notez cette dernière information que le chef de la CIA, John Ratcliffe, était aujourd'hui du côté de Moscou pour s'entretenir avec des responsables russes. Selon la chaîne en hébreu d'I24 News, il y a quelques jours, de hauts fonctionnaires de l'administration Trump auraient enjoint Kiev de mettre fin à ses envois de drones et ses tirs de missiles contre Moscou pour ce lundi, mardi et mercredi. En Belgique, de nouveaux tirs à la Kalachnikov sont survenus lundi soir, place des Deux-Bancs à Saint-Gilles, au croisement de la rue Gustave Defnet et de la rue du Monténégro. Les tirs ont été effectués avec une arme automatique. Aucun blessé n'est à déplorer et le tireur a pris la fuite, a indiqué le bourgmestre Jean Spinette. Des clients ont dû se coucher dans la pizzeria qui se trouve à côté, ajoute-t-il. Il s'agit du troisième jour consécutif marqué par des tirs à Saint-Gilles et du deuxième incident de tir en trois jours à cet endroit. Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin a rencontré ce matin les trois bourgmestres de la zone Midi avec les nouveaux tirs entendus après les nouveaux tirs entendus cette nuit. Toujours en Belgique, le parquet du procureur du roi à Liège a ouvert une information judiciaire afin de déterminer l'origine des flammes qui ont ravagé la réserve naturelle des Hautes-Fagnes. Selon les premiers éléments recueillis, l'origine du sinistre pourrait être liée aux activités d'un engin agricole. Plusieurs hypothèses sont examinées par les enquêteurs. Aucune conclusion définitive ne peut actuellement être tirée quant à la cause exacte de l'incendie, a indiqué l'autorité judiciaire dans un communiqué. Enfin, un mot de sport pour dire que l'Hapoël Beersheva a rendez-vous ce soir avec son histoire. Le champion israélien de football se déplace à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, pour affronter le club de Sabah FC et se qualifier, pourquoi pas, pour la grande et belle Ligue des Champions, la compétition de football la plus prestigieuse au monde. Pour rappel, à l'aller, les hommes de Ron Kozour l'avaient emporté 2-1.